Immersion. Un reportage de Radio Présence.
Mais comment faire pour être heureux ?
Ils ne sont ni guides ni conservateurs de musées, et pourtant, tout au long de cet été qui s'achève, pour faire vivre le patrimoine chrétien de leur village, de leur ville, de leur région, ils se sont mobilisés. Dans un esprit d'ouverture, des centaines d'acteurs des services de la pastorale, des réalités et du tourisme ont accueilli au nom du Christ touristes et vacanciers, pèlerins ou randonneurs. Dans le diocèse de Carcassonne-Narbonne et sous l'impulsion de leur évêque, Mgr Planet, de Castelnaudary jusqu'au Somail, les acteurs de la pastorale ont sillonné le canal du Midi, ce canal des deux mers qui relie tout autant les hommes que l'océan à la Méditerranée. 17h, un samedi 2 juillet, dans l'église de Saint-Pierre-Saint-Paul de l'écluse du Somail, avec Anne-Marie Gourgue et Jean-Pierre Janier. Pourquoi, Jean-Pierre Janier, vous m'avez donné rendez-vous ici aux alentours de 17h ce samedi de fin de juillet?
Bon, alors il y a deux raisons. D'abord, le Somail, c'est un des hauts lieux du canal, parce qu'il faut quand même savoir que pendant un siècle, le canal de jonction, qui est un petit peu plus loin, n'existait pas. Et si bien que le Somail était le port de Narbonne, les marchandises étaient débarquées ici au Somail. Ça a duré jusqu'à, je crois, 1787, date à laquelle le canal de jonction a été ouvert pour relier le canal de la Robine de Narbonne et permettre donc d'acheminer les denrées jusque là-bas. Précédemment, eh bien, elles étaient débarquées ici au Somail. Et puis la deuxième raison, c'est que pendant la période estivale, Monseigneur l'évêque a décidé qu'il fallait que plusieurs, chapelles, églises, etc., soient ouvertes le long du canal pour accueillir les touristes de passage. Comme le canal est le thème qui a été retenu pour Balade en pays d'eau de cette année, eh bien, c'était tout naturellement que le Somail a été sélectionné. Et bon, j'ai tout fait pour ça aussi de mon côté. Voilà, ce sont les deux raisons essentielles. Et donc, il y a une messe tous les samedis de début juillet à fin août dans cette église.
Ces touristes qui passent, sont des touristes, ce sont des visiteurs, ce sont des fidèles. Est-ce qu'ils osent franchir le pas de la porte d'entrée? Est-ce qu'ils vous posent des questions? Quelles sont leurs attentes? Est-ce qu'ils ont des attentes seulement?
Ben, c'est très divers. Hein. La plupart du temps, une petite curiosité. On rentre, on regarde et on ressort. Quelquefois, je m'approche du touriste et je lui demande s'il veut quelques petites explications. Quelquefois, j'ai des réponses affirmatives, quelquefois non. Bon.
Oui, vous la connaissez, cette église?
Non, on l'avait jamais vue ouverte.
Et vous êtes de la région, pourtant?
On est à côté de Perpignan, mais oui. On vient souvent ici. C'est la première fois qu'on l'avait ouverte.
Certains viennent aussi, mais bon, vraiment pour la messe, à l'heure de 18h, puisque bon, c'est une messe dominicale anticipée, et on a des gens du secteur qui viennent à cette messe parce que c'est une messe anticipée, qui ne viendront pas à la messe du dimanche. Hein, c'est le but. Mais bon, beaucoup de personnes vraiment intéressées, touristes, qui rentrent, qui se renseignent, qui assistent à la messe, alors ça, on les compte sur les doigts d'une main, vraiment. Voilà.
Alors, tout le long du canal, vous m'avez montré un magnifique livre de Mireille Aublin-Bruyère, et sur lequel vous m'avez montré, le long du canal, l'emplacement d'un certain nombre de chapelles. Oui. Il y a celle du Somail où nous sommes, il y en avait d'autres qui longeaient le canal.
Il y en avait une dizaine en tout. Alors, c'était très simple. Tout ça, c'est lié à la barque de poste. Alors, la barque de poste, ça n'a rien du tout à voir avec la poste, le courrier et tout ce qui s'ensuit. C'était un coche d'eau qui transportait des passagers de Toulouse à Agde en 4 jours. Ça a commencé en 1673 et ça s'est poursuivi jusqu'en 1857. Alors, ça se faisait en 4 jours. Première étape, Castelnaudary. Deuxième étape, Trèves, à côté de Carcassonne, parce que pendant jusqu'en 1810, pour être très précis, il n'y avait pas le canal ne passait pas par Carcassonne. Ensuite, troisième étape, le Somail, Et quatrième étape, ils arrivaient à Agde. Et alors donc, la troisième étape, c'était ici. Les gens, les passagers de la barque de poste débarquaient. Ils venaient passer la nuit dans le bâtiment qui est juste en face de nous. Ils y dînaient, ils y dormaient. Et le lendemain matin, il y avait un petit office à la chapelle du Somail. C'était une chapelle à l'époque. Aujourd'hui, c'est une église parce qu'il y a des registres paroissiaux. Voilà la différence. Donc, ça a été vraiment quelque chose de très important au bord du canal que ces chapelles. Il y en avait 10 maintenant. La plupart sont désaffectées. Il y en a encore une où il y a quelques offices. C'est la chapelle de Negra, entre Toulouse et Castelnaudary. Et quelquefois, il y a un mariage ou une autre cérémonie, mais ce n'est pas aussi assidu qu'ici, où nous avons des offices régulièrement tous les premiers vendredis du mois. Et ça, j'y suis très attaché. Je viens spécialement depuis Vintenac à cette messe parce que je tiens à ce que la chapelle vive. Voilà.
Et d'ailleurs, pour les touristes ou qui passent, c'est donner l'image aussi d'une communauté vivante.
Bien sûr, voilà, c'est ça. D'ailleurs, c'était l'idée de Monseigneur l'évêque, c'était qu'il y ait une présence eucharistique au bord du canal, pour les gens du cru, bien entendu, mais aussi pour les touristes de passage. Ça, c'était un de ses voeux. Voilà. Alors, j'espère l'avoir exaucé en partie. Madame Gourgues et moi, on a essayé de faire notre possible pour ouvrir un peu plus tôt, essayer de renseigner les gens qui passent. Et voilà.
Dans le diocèse de Carcassonne, le père Luc Caraguel, vicaire général, est le responsable de la pastorale des réalités et du tourisme. Pour savoir si ce qui se joue pendant ces temps de vacances a quelque chose à voir avec la foi chrétienne, pour savoir quelles peuvent être la place et le rôle de l'Église dans la grande industrie du tourisme, et quel peut être le sens d'une action ecclésiale, nous le rencontrons quelques jours plus tôt à l'évêché à Carcassonne.
Alors le tourisme, c'est la première activité de l'Aude. Donc automatiquement, rien de ce qui est humain ne nous est étranger. Et ensuite, dans l'Aude, plus particulièrement, les visiteurs découvrent essentiellement des églises. Le site le plus visité dans l'Aude, c'est la basilique Saint-Nazaire, avec 1,5 million de visiteurs, donc au cœur de la cité de Carcassonne. Et ensuite, c'est bien au-delà des chiffres, même du château Comtal. Le château Comtal, c'est 500 000 visiteurs. Et ensuite, on a des lieux qui sont très très visités. 700 000 visiteurs à la cathédrale Saint-Just de Narbonne, autour de 90 000 à Notre-Dame-des-Ausiles, la chapelle du cimetière marin à Gruissan. Donc ce sont de très très gros chiffres. Ici à Carcassonne, on a l'église Écarme qui tourne autour de 200 000 visiteurs. Donc le tourisme pour nous, c'est essentiel parce que de fait, on découvre des églises. Et en découvrant les églises, nous espérons que des pierres, on passera aux pierres vivantes. On essaie d'avoir, quand on le peut, un réel service d'accueil pour que la beauté des lieux soit aussi un premier espace d'évangélisation.
C'est l'annonce de l'évangile, c'est une proposition de l'évangile.
Alors je vais raconter l'histoire d'un voisin de l'évêché qui ne participe pas outre mesure à la vie de l'église, mais qui sait... pris de passion quand on a demandé d'assurer une permanence d'accueil pour les fêtes d'été, notamment ici à Carcassonne, on avait les milliers de visiteurs le 14 juillet, on a une opération église ouverte. Et donc, des foules rentrent dans l'église. Ici, l'église des Carmes, à Carcassonne, donc. Et ce monsieur qui dit aux personnes « Bonjour !» C'est pas compliqué, ça c'est l'accueil. Vous pouvez découvrir l'église. Il y a un endroit pour prier, et puis voilà un petit dépliant, si vous voulez, avec l'architecture et la prière dans cette église. Ça ne nous intéresse pas. Bon, on reste sur son compte à soi, et ce monsieur répond, mais vous savez, c'est dommage. parce que vous ratez quelque chose. Parce que le patrimoine, c'est un patrimoine vivant. Et nous, nous sommes là pour vous le dire. Et puis, au retour du circuit dans l'église, eh bien, les mêmes personnes qui n'étaient pas intéressées se sont arrêtées pour discuter avec ce monsieur. Voilà. Alors, on est passé de l'accueil, parfois des petits refus ou les personnes qui se rebutent, à une première étape, une étape supplémentaire qui est celle de, bah, d'un dialogue. Et ça a été un dialogue autour de la foi. Donc, ces petits Fioretti, on peut dire, on en a beaucoup à travers ceux et celles qui osent accueillir dans les églises. Donc, l'accueil est la première étape, la découverte du patrimoine une autre, mais à travers la découverte du patrimoine religieux, d'abord, il y a un vocabulaire, et puis il y a des personnes qui parlent, et ceux qui parlent, ceux qui sont là, ceux qui sont aussi des croyants. Et on est dans une étape de première évangélisation.
Fondatrice au Somail avec son mari d'une incroyable librairie de livres anciens, le Trouve tout du livre, Anne-Marie Gourgues est aussi membre de la pastorale des réalités et du tourisme.
Et le fait est qu'au Somail, il y avait 180 habitants à l'époque, il y en a plus de 500 maintenant. Et mon mari, qui était un peu visionnaire, il y croyait. Il disait, avec le canal qui va devenir un lieu de tourisme. Mm-hmm. Il n'y avait qu'une compagnie de bateaux.
Il était inscrit au patrimoine mondial de...
Non, il n'y était pas à l'époque.
Non, mais aujourd'hui.
Ah, aujourd'hui,
il
oui.
Il était visionnaire, donc, parce qu'aujourd'hui, oui, il est inscrit au patrimoine.
Oui, et puis, derrière la librairie, donc, il y a la départementale 607, et il me dit, c'est la seule route que les gens du Tarn empruntent pour aller à la mer. Le fait est, il y a beaucoup de circulation sur cette route. Alors, donc, on a fait un chemin qui mène de la route à la librairie. Voilà, ils arrivent à la librairie. Voilà, et puis c'est Madame Billot, une habitante, alors qui était de la région, qui habitait au Somail, qui s'occupait de la chapelle. Elle était viscéralement attachée à la chapelle. Elle ouvrait le plus possible et elle aimait raconter l'histoire de la chapelle, etc. Et puis, quand j'ai pris ma retraite, il y a 5 ans, je lui ai dit, écoutez, moi, je veux bien vous aider. Elle me dit, ah, vous voulez m'aider? Ben, tenez, prenez la clé et vous me remplacez. Donc, ben, j'ai dit oui. Et puis, voilà. Mais c'est vrai que j'ai pas une bonne forme en ce moment pour vraiment être efficace.
Votre mission essentielle, c'est quoi?
Eh bien, c'est d'ouvrir la chapelle et d'être là, présente, et expliquer, notamment... Moi, j'aime bien parler aux enfants.
Oui, bien sûr. Mmh. C'est
l'avenir. Parce que souvent, non, on leur parle pas de Dieu, on leur parle pas de Jésus, ils savent pas où ils sont là. Alors, je leur explique. Et ils ont l'air... Ils écoutent, hein? Ils écoutent, bon, je ne sais pas. Les parents sourient des fois, mais enfin bon. Oui, et puis, je suis là quand il y a des baptêmes, des mariages, et c'est assez fréquent. Hein.
Mais il y en a un, là.
Malheureusement, les sépultures, oui. Ça, il y en a plus que de mariages ou de baptêmes, mais enfin, c'est la vie.
C'est une écoute, essentiellement une écoute, ou une évangélisation aussi?
Non. Je ne cherche pas à évangéliser les gens. Il faut que ce soit eux qui en fassent la demande, la recherche. Mm-hmm. On ne peut pas. D'ailleurs, notre ancien curé, l'abbé Dumec, un jour je lui disais, moi je suis désolée, j'ai 7 petits-enfants, il n'y en a pas un qui va au catéchisme. Il me dit, mais c'est pas vous qui allez éveiller leur foi. C'est le Seigneur qui va leur parler, s'ils ont la curiosité de découvrir. Moi, je veux leur dire, si, Dieu, il existe, parce que, regardez, la création, c'est une merveille. Quand on voit la terre, quand on voit les animaux, quand on voit le ciel, quand on voit les étoiles, les galaxies, tout, c'est formidable. Ça ne peut être qu'un créateur qui ait mis tout au moins l'énergie pour que ce monde soit créé.
Le Seigneur est bon, il a fait pour nous les merveilles. Mais oui, le Seigneur est bon, mais oui, le Seigneur est bon.
des propos qui font écho à ceux du père Luc Araguel.
À Noël, on a une grosse exposition de crèches ici à l'église des Carmes à Carcassonne. On a eu 30 000 visiteurs dans tout le mois de décembre. Et on l'a lancé avec la Passerelle du Tourisme, c'est la 4e édition. Et on s'est rendu compte qu'il fallait prendre en charge les familles, parce que les gens passent et ne s'arrêtent pas, et c'est gênant, d'une certaine manière, parce que, voilà, pour avoir un contact avec les personnes, il vaut mieux qu'ils s'arrêtent un peu à l'église. On a mis une table que nous a donnée une école catholique, c'est une table de maternelle, donc très basse, hein, avec des dessins de crèche, et au recto et au verso, les horaires des célébrations de Noël, une petite invitation à rappeler ce qu'est le catéchisme. Et bien, grâce à ça, nous avons eu énormément de contacts. Voilà. Et la surprise, c'est que des enfants ont dessiné des crèches, mais aussi des parents. Voilà. Alors, pour l'été, on a un projet, donc, dans les endroits où il passe beaucoup de monde, de remettre cette table avec des dessins ou des vitraux. Voilà. Les scènes, la Vierge Marie, ou telle scène de telle ou telle église. Donc, pour fixer un peu, et à partir du moment où les enfants sont fixés, le dialogue avec les parents s'instaure, et c'est une première catéchèse. Et ça, on l'a vérifié de façon imparable.
C'est donc un chemin de foi aussi.
Voilà, mais alors, d'un chemin de foi avec des petites astuces communicationnelles, voilà, toutes bêtes, hein, parce qu'au fond, on a un trésor que nous ne savons pas forcément exploiter. Et comme je le dis toujours aux équipes qui sont plus ou moins motivées, puis des gens viennent nous rendre service à tel ou tel moment, et à d'autres moments ils ne sont pas disponibles, mais je le dis toujours, vous savez, nous nous plaignons que nous n'avons personne dans les églises au moment où on célèbre l'Eucharistie, mais au moment où on ne la célèbre pas, notamment en été ou à des moments privilégiés, nous sommes envahis de touristes. Alors c'est le cas à Carcassonne, c'est le cas à Narbonne, c'est le cas sur les églises du littoral. Et puis, un peu dans certains cas aussi, sur le canal du Midi. Que faisons-nous puisqu'ils viennent à ce moment-là? Vous savez, dans notre proposition d'évangélisation, on met des prospectus « stop pub ». On essaie d'envoyer des mails, donc on nous met dans les spams. Voilà. Y a des groupes sectaires qui font du porte-à-porte, maintenant il y a des digicodes partout. Alors, où rencontrer les gens? Eh bien, dans nos églises, mais pas au moment où nous les attendons, mais à d'autres moments. Voilà, ça c'est le paradoxe. Et donc, c'est à ce moment-là, et c'est à ces moments-là, qu'il faut savoir être présent et qu'il faut savoir semer. On ne dit pas qu'on va récolter, mais on va semer. Et on sème, entre guillemets, pour l'exportation, parce que la plupart de ceux qui viennent, hormis la période de Noël pour les soins de crèche, mais sont plutôt des extérieurs à la région. Mais nous semons et nous sommes chargés de semer, et donc avec des outils tout simples. Ce que l'on veut faire passer, le message qu'on veut faire passer, on peut en partie le faire passer, justement par ces lieux qui sont des points de rencontre. Voilà. Alors, il faut accepter que certaines églises ressemblent parfois à des halls de gare où on a besoin de tempérer au niveau du bruit, parce qu'il y a énormément de passages, et quelquefois donc c'est le flux qu'il nous faut contenir et accompagner, mais on arrive toujours à avoir des espaces dans ces églises d'intériorité et de silence, et les gens le comprennent bien d'ailleurs, mais c'est là qu'on peut faire passer des messages. Voilà. Message autour de l'évangile ouvert, autour d'expositions, voilà, autour de concerts que nous organisons nous-mêmes dans une dynamique particulière. Voilà. Et ça, c'est intéressant. Et puis, message autour de l'Eucharistie qui est célébré dans les lieux touristiques. Quand on célèbre la messe dominicale, c'est vrai qu'on peut parfois être gêné par le flux incessant de touristes. Mais en le gérant bien, ils rentrent dans une église, ils sont souvent bien plus nombreux dans l'heure de la messe que les paroissiens qui participent à la messe, mais ils voient des gens prier. Et je crois que voir des gens prier, c'est déjà toute une surprise. Alors, parlons pas des touristes japonais, mais de bien d'autres également, ou même de locaux, qui sont tout surpris de voir et d'entendre des gens chanter, prier. Bon. Mais c'est notre témoignage, hein. Il faut le faire. Thank you.
un peu moins de 18h dans l'église du Somail. Jean-Pierre Janier termine la visite et une trentaine de fidèles prennent place dans l'église pour la messe célébrée ce soir-là par le père Désiré, un prêtre camerounais venu remplacer pour ces 2 mois d'été le prêtre en charge du secteur paroissial, un camerounais lui aussi, rentré chez lui en ce temps de période estivale.
Alors, elle a été construite, d'après les informations qu'on a, entre 1672 et 1693, c'est comme une longue période. Et elle a été, s'est avérée trop petite au XIXe siècle. Alors, elle a été rallongée de quelques mètres. On voit très bien tout, la sacristie actuelle, le chœur, la sacristie et la petite chambre qui est au-dessus et qui servait au prêtre pour dormir, le prêtre de passage pour dormir, a été rajoutée. Et ça a été pris sur le canal, ce qui est quand même une position absolument paradoxal et unique sur le canal. On connaît ça nulle part. Hein. Les églises, les chapelles du canal sont un petit peu hors de l'empreinte du canal. Ici, c'est vraiment sur le canal. Voilà. Alors, elle a été rallongée donc en 1842 pour que la plupart des habitants de la localité, qui n'étaient pas importantes, puissent donc venir assister aux offices. Mm-hmm. Et ça, c'était en 1842, si mes souvenirs sont bons.
Alors, tout à l'heure, il y avait quelques touristes, visiteurs qui étaient par là. Vous leur montriez la cloche.
Oui, alors elle a été fêlée, donc elle était complètement inefficace. La refaire faire, ça coûtait plus cher qu'en racheter une neuve. Et l'année dernière, eh bien, une nouvelle cloche a été inaugurée.
Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous te adorons. Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel.
Pour faire découvrir leur chapelle, église ou autre bâtiment religieux, ils sont nombreux à donner de leur temps. Mais il reste encore beaucoup à faire. Père Luc Garaguel.
Alors là, donc, cette année, bon, l'axe est donné autour du canal du Midi. Nous espérons que ça donnera envie aux différentes paroisses d'ouvrir davantage et plus largement afin de répondre à une vocation. Une vocation, je vous dis, de première évangélisation. Alors, c'est vrai que pour nous, la problématique, on le comprend, hein, toute l'année, on a une vie pastorale comme toutes les paroisses. Et puis l'été, on aurait plutôt tendance à se dire, on se calme, on assure le minimum, les mariages, les baptêmes, les messes dominicales, les enterrements quand il y en a, et puis on s'apaise. En fait, on ne peut pas, voilà, puisque la population du département, du diocèse est décuplée, et sans compter donc ce qui ne reste qu'un jour ou deux jours. Mais donc là, il y a un curé sur cette paroisse du Minervois. Je dis, voilà, ben, tu as potentiellement sur cette paroisse 20 villages, 21 ou 22 000 paroissiens. En fait, tu en as 1 million. C'est le chiffre de ce qui passe sur le canal. Donc ça, on ne peut pas le perdre de vue. Et l'équipe pastorale ne peut pas gommer cette dimension très forte.
Oui, enfin, une responsabilité, une gageure. Hein.
C'est une responsabilité, c'est un service d'église. Voilà. Alors, on a le canal. Je peux vous parler d'une autre expérience qui a une toute autre dimension. C'est que l'an dernier, donc l'Aude est essentiellement un département rural, mais plutôt viticole. Mais nous avons une foire au bétail, le plateau de Sceaux. Je pense que très peu de vos auditeurs vont connaître ça, au-dessus de Quillan, tout en haut de la Haute-Vallée, à la limite de l'Aude et de l'Ariège. Il y a une foire en octobre dans un village de 200 habitants, Espezel, entre 40 et 50 000 visiteurs en 2 jours. C'est extraordinaire. Eh bien, on y a assuré une présence d'église pour la première fois au mois d'octobre. Voilà. Et je crois que ça a été apprécié. On y a célébré une Eucharistie, ouvert l'église et assuré un stand sur cette foire. Ben voilà, on peut faire quand même des opérations coup de poing, même si on ne peut pas tout faire, mais de façon très ciblée, et donc être église au milieu de ces réalités.
Et c'est avec ces quelques mots de Mgr Planet, évêque de Carcassonne-Narbonne, que nous refermerons ce reportage, la pastorale du canal. Pierre-Paul Riquet a voulu que son canal soit accosté de chapelles avec un logement pour les prêtres. la pose de la première pierre le 17 novembre 1667 se fit devant la première chapelle où, par un jour comme de printemps, une procession fastueuse conduisit l'archevêque de Toulouse bénir les deux premières pierres. C'était bien sûr l'air du temps, mais c'était aussi, même enseveli sous les fastes baroques, la certitude que ce qui rassemble les hommes révèle Dieu et que la mémoire sans cesse célébrée de la mort et de la résurrection de Jésus de Nazareth inscrit toutes les rencontres fugaces de nos vies dans son éternité. Monseigneur Alain Planet, évêque de Carcassonne et de Narbonne.